VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
13h à Washington, 19h à Bujumbura et à Kigali. Nous commençons par le Congo-Brazzaville. 8 personnes au moins ont été blessées aujourd'hui à Brazzaville, dont 6 grièvement par balle lors de heurts entre forces de l'ordre et opposants au référendum constitutionnel du 25 octobre qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016, selon des sources hospitalières et le correspondant de l'AFP. L'hôpital de Makelekele, quartier sud de Brazzaville, a reçu 7 blessés, dont 5 par balle et dans un état grave, selon des sources médicales sur place. Les 2 autres blessés ont été atteints par des éclats de grenades lacrymogènes, a-t-on indiqué de même source, précisant que faute de moyens pour les soigner sur place, tous avaient été transférés à l'hôpital général. Le correspondant de l'AFP a assisté peu avant 14h ou 13h temps universel à Makelele à l'admission d'un autre blessé touché par une balle à l'abdomen et baignant dans son sang. Le même journaliste a pu constater en début d'après-midi que le commissariat du quartier avait été incendié, signe de la violence et de la contestation ayant éclaté dans les quartiers sud et ouest de la capitale après l'interdiction d'une manifestation d'opposition annoncée pour mardi après-midi contre le référendum constitutionnel de dimanche. Selon des témoins, 2 autres commissariats ont été incendiés dans des quartiers de l'ouest de la capitale. Le porte-parole de la police n'était pas disponible pour répondre aux questions de l'AFP. Et selon le correspondant de VOA Afrique à Brazzaville, il y a eu 2 morts aujourd'hui. Le rappeur angolais Luati Bairao en grève de la faim depuis le 21 septembre et 14 autres personnes poursuivies pour rébellion contre le président José Eduardo dos Santos seront jugées du 16 au 20 novembre à Luanda, a annoncé mardi Amnesty International, qui considère leur situation comme un affront à la liberté d'expression. Les prévenus demandent le départ de M. dos Santos au pouvoir depuis 1979 et ils réclament de meilleures conditions de vie. Ils sont accusés par le ministère public des rébellions et de tentatives de renversement du président. Au Burundi, des médias français ont porté plainte auprès de la Cour suprême du Burundi à Bujumbura pour torture infligée à leur correspondant Esdras Nikumana. Joint par Eric Manirakiza à Paris, Esdras Nikumana alerte le monde sur la situation des journalistes et des médias au Burundi.
Ce qui arrive aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe d'une ampleur inouïe qui arrive, qui nous tombe dessus, qui tombe sur les médias burundais, sur les journalistes burundais, qui étaient une des catégories les plus appréciées dans le pays, qui était, vous savez bien que le Burundi était jusqu'à peu l'un des pays où il y avait le plus de liberté de la presse malgré les menaces qui existaient sur le secteur. Aujourd'hui, eh bien, tout ça est parti en lambeaux. Les radios ont été détruites. Les journalistes ont fui le pays. Ils ont fui parce qu'ils craignaient pour leur vie. Et il y a quelques jours, un collègue, Christophe, a été lâchement, a été assassiné d'une manière atroce en compagnie de sa femme et de ses enfants. Et aujourd'hui, cela est allé trop loin. Aujourd'hui, il faut qu'on montre qu'il faut se battre. Nous devons nous battre. Les journalistes burundais doivent se battre pour leurs droits, pour la liberté de la presse. Et cela passe notamment le fait de porter plainte, le fait de crier haut et fort ce qui se passe. Surtout, nous sommes dans une période trouble où le Burundi s'achemine inexorablement vers la guerre. Eh bien, le Burundi a plus que jamais besoin de journalistes libres et indépendants qui rendent compte, qui disent réellement ce qui se passe. Toutes ces atrocités qui se passent, ces gens qui sont arrêtés, assassinés, ces gens qui sont tués tous les jours.
C'était Esdras Nikumana, joint à Paris. Le Conseil de sécurité de l'ONU a brandi une nouvelle fois mardi la menace de sanctions contre les fauteurs de troubles et les responsables de violences en République centrafricaine et il a réclamé des élections avant fin 2015. Dans une déclaration unanime adoptée aujourd'hui sur proposition de la France, les 15 pays membres ont rappelé que certaines des attaques contre les civils et les casques bleus de la MINUSCA peuvent être assimilées à des crimes de guerre passible de la Cour pénale internationale. L'armée ougandaise a entamé son retrait du Soudan du Sud, voisin, dans le cadre de l'accord de paix conclu en août entre les deux parties en conflit depuis près de 2 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement sud-soudanais, Jacques Aristide.
L'Ouganda avait déployé des troupes au Soudan du Sud en appui au régime du président Salva Kiir quelques jours après le début du conflit en décembre 2013 avec son ancien vice-président Riek Machar. Les forces ougandaises ont notamment protégé la capitale Juba et offert au régime la puissance de feu de leurs hélicoptères dans le reste du pays. Selon le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, tel que le rapporte l'AFP, les troupes ougandaises ont quitté Bor, ville stratégique au nord de Djouba, pour se replier sur la capitale et se regrouper avec les autres forces ougandaises avant de regagner l'Ouganda. La démilitarisation de Djouba, toujours restée aux mains des forces gouvernementales afin d'y permettre le retour de l'ex-vice-président Riek Machar, est un des éléments clés de l'accord de paix conclu entre les deux rivaux sous l'égide du bloc régional IGAD. Les soldats ougandais devraient être remplacés à Djouba par une force neutre, tandis que l'armée devrait regagner des casernes en périphérie de la capitale.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
3 islamistes armés ont été tués ce matin par l'armée algérienne dans le département de Boumerdès, 50 km à l'est d'Alger, a indiqué le ministère de la Défense. Les 3 hommes ont trouvé la mort lors d'un ratissage de l'armée près de Baglia, à une 20aine de kilomètres de Boumerdès, où opèrent des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, selon le communiqué. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pressé mardi les dirigeants israéliens et palestiniens d'agir vite pour arrêter une dangereuse escalade des violences au cours d'une visite surprise en Israël. Lionel Gahima.
S'adressant à la presse lors d'une rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré « Si nous n'agissons pas rapidement, la dynamique sur le terrain ne va faire qu'empirer ». Ban Ki-moon a ajouté « Lors de mes rencontres aujourd'hui et demain avec les dirigeants israéliens et palestiniens, j'appellerai à chacun à entreprendre des efforts concertés pour limiter les incidents de part et d'autre. Pour l'avenir de nos enfants, nous devons revenir sur ce dangereux abîme », a-t-il encore dit en évoquant la paralysie actuelle de l'effort de paix et en réaffirmant l'attachement de l'ONU à une solution à 2 États, israéliens et palestiniens, coexistant en paix. Aujourd'hui, un Palestinien a été tué et 5 blessés dans les affrontements avec les soldats israéliens à l'est du territoire près de la barrière de sécurité qui enferme la bande de Gaza, annonce les services de secours palestiniens.
En Syrie, les frappes russes ont tué 370 personnes, 243 rebelles et 127 civils depuis le début de l'intervention de Moscou dans le conflit le 30 septembre dernier. C'est ce qu'a affirmé mardi une ONG syrienne. Le point avec Lucille Hamon.
Les raids russes ont frappé plusieurs provinces du pays, dont celle de Raqqa, au nord de la Syrie, qui est le bastion du groupe État islamique. Ils ont surtout visé les provinces où les forces du régime mènent des offensives contre des groupes rebelles et où l'État islamique n'est pas présent. Parmi les 127 civils tués, l'Observatoire syrien des droits de l'homme compte 36 enfants et 34 femmes. Moscou affirme intervenir dans le conflit pour venir en aide au régime de Bachar al-Assad, assurant que ses forces visent l'État islamique et d'autres groupes terroristes comme le Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Mais les Occidentaux accusent la Russie de se concentrer sur des rebelles qualifiés de modérés pour appuyer le régime en difficulté. Les frappes aériennes russes en Syrie démontrent que la Russie est prête à répondre de manière adéquate et efficace aux menaces terroristes et à n'importe quelle menace, a déclaré le président Vladimir Poutine aujourd'hui.
Enfin, pour terminer, Justin Trudeau, futur Premier ministre du Canada, après la victoire du Parti libéral lors des élections législatives de lundi. Justin Trudeau est le fils de l'ancien Premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau. Les libéraux ont raflé 184 sièges sur les 338 que compte le Parlement canadien. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Prochain rendez-vous dans Le Monde Aujourd'hui avec Morgane Guiriec et Eric Manirakiza. Idrissa Seloulia, VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.